Chapitre 2. Pour une théorie de la consommation. L'autopsie de l'Homo economicus. C'est un conte. Il était une fois un homme qui vivait dans la rareté. Après beaucoup d'aventures et un long voyage à travers la science économique, il rencontra la société d'abondance. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup de besoins. La beauté de l'Homo economicus, disait Whitehead, c'était que nous savions exactement ce qu'il recherchait. Ce fossile humain de l'âge d'or, né à l'ère moderne de l'heureuse conjonction de la nature humaine et des droits de l'homme, est doué d'un intense principe de rationalité formelle qui le porte, premièrement, à rechercher sans l'ombre d'une hésitation son propre bonheur. Deuxièmement, à donner sa préférence aux objets qui lui donneront le maximum de satisfaction. Tout le discours profane ou savant sur la consommation est articulé sur cette séquence qui est celle, mythologique, d'un conte. Un homme doué de besoins qui le porte vers des objets qui lui donnent satisfaction. Comme l'homme n'est quand même jamais satisfait, on le lui reproche d'ailleurs, la même histoire recommence indéfiniment avec l'évidence défunte des vieilles fables. Chez certains affleure la perplexité, ouvrez les guillemets. Les besoins sont ce qu'il y a de plus obstinément inconnu entre toutes les inconnues dont s'occupe la science économique. Kneid. Mais ce doute n'empêche pas la litanie sur les besoins d'être fidèlement récitée par tous les tenants des disciplines anthropologiques. De Marx à Galbraith, de Robinson Crusoe à Chambard de Lauve. Pour l'économiste, c'est l'utilité. Le désir de biens spécifiques à fin de consommation, c'est-à-dire d'en détruire l'utilité. Le besoin est donc déjà finalisé par le bien disponible. Les préférences orientées par le découpage des produits offerts sur le marché, c'est au fond la demande solvable. Pour le psychologue, c'est la motivation. Théorie un peu plus complexe, moins orientée objet qu'orientée instinct. D'une sorte de nécessité préexistante mal définie. Pour les sociologues et les psychosociologues, qui arrivent les derniers dans la foulée, il y a du socioculturel. On ne remet pas en doute le postulat anthropologique d'un être individuel doué de besoins et porté par la nature à les satisfaire, ni que le consommateur soit un être libre, conscient et censé savoir ce qu'il veut. Les sociologues se méfient des motivations profondes, mais sur la base de ce postulat idéaliste, on admet qu'il y a une dynamique sociale des besoins. On fait jouer des modèles de conformité et de concurrence tirés du contexte de groupe ou les grands modèles culturels qui se rattachent à la société globale ou à l'histoire. Trois propositions en gros se dégagent. Pour Marshall, les besoins sont indépendants et rationnels. Pour Galbraith, nous y reviendrons, les choix sont imposés par persuasion. Pour Gervasi et d'autres, les besoins sont interdépendants et résultent d'un apprentissage, plus que d'un calcul rationnel. Gervasi. Les choix ne sont pas faits au hasard, mais socialement contrôlés, et reflètent le modèle culturel au sein duquel ils sont effectués. On ne produit ni ne consomme n'importe quel bien, ils doivent avoir quelque signification au regard d'un système de valeurs. Fermez les guillemets. Ceci introduit à une perspective sur la consommation en termes d'intégration. Ouvrez les guillemets. Le but économique n'est pas la maximisation de la production pour l'individu, mais la maximisation de la production en liaison avec le système de valeurs de la société. Parson. Duesenberry dira dans le même sens que le seul choix est au fond de varier les biens en fonction de sa position sur l'échelle hiérarchique. Finalement, c'est la différence des choix d'une société à l'autre et leur ressemblance à l'intérieur d'une même société qui nous impose de considérer le comportement du consommateur comme un phénomène social. Il y a là une différence sensible d'avec les économistes. Le choix rationnel de ceux-ci est devenu le choix conforme, le choix de la conformité. Les besoins ne visent plus tellement des objets que des valeurs, et leur satisfaction a d'abord le sens d'une adhésion à ces valeurs. Le choix fondamental, inconscient, automatique du consommateur est d'accepter le style de vie d'une société particulière. Ce n'est donc plus un choix. Et la théorie de l'autonomie et de la souveraineté du consommateur est démentie par la même. Cette sociologie culmine dans la notion de standard package, définie par Reisman comme l'ensemble de biens et de services qui constituent l'espèce de patrimoine de base de l'Américain moyen. En augmentation régulière, indexée sur le niveau de vie national, c'est un minimum idéal de type statistique, modèle conforme des classes moyennes. Dépassé par les uns, rêvé pour les autres, c'est une idée en laquelle se résume l'American Way of Life. Là encore, le standard package ne désigne pas tellement la matérialité des biens, télévision, salle de bain, voiture, etc., que l'idéal de conformité. Toute cette sociologie ne nous avance guère. En dehors du fait que la notion de conformité n'a jamais caché qu'une immense tautologie, ici l'Américain moyen définit par le standard package, lequel se définit lui-même par la moyenne statistique des biens consommés, ou sociologiquement, tel individu fait partie de tel groupe parce qu'il consomme tel bien, et il consomme tel bien parce qu'il fait partie de tel groupe. Le postulat de rationalité formelle que nous avons vu à l'œuvre chez les économistes dans le rapport de l'individu aux objets est ici simplement transféré sur le rapport de l'individu au groupe. La conformité et la satisfaction sont solidaires. C'est la même adéquation d'un sujet à des objets ou d'un sujet à un groupe posé comme séparé, selon un principe logique d'équivalence. Les concepts de besoin et de normes sont respectivement l'expression de cette adéquation miraculeuse. Entre l'utilité des économistes et la conformité des sociologues, il y a la même différence que celle qu'établit Galbraith entre les conduites de profit, la motivation pécuniaire caractéristique du système capitaliste traditionnel, et les comportements d'identification et d'adaptation spécifiques de l'ère de l'organisation et de la technostructure. La question fondamentale qui résulte aussi bien chez les psychosociologues de la conformité que chez Galbraith, et qui n'apparaît pas, et pour cause, chez les économistes, pour qui le consommateur reste un individu idéalement libre dans son calcul final relationnel, est celle du conditionnement des besoins. Depuis la persuasion clandestine de Packard et la stratégie du désir de Ditcher, et quelques autres encore, ce thème du conditionnement des besoins, par la publicité en particulier, est devenu le thème favori du discours de la société de consommation. L'exaltation de l'abondance et la grande lamentation sur les besoins artificiels ou aliénés alimentent ensemble la même culture de masse et même l'idéologie savante sur la question. Elle prend racine en général dans une vieille philosophie morale et sociale de tradition humaniste. Chez Galbraith, elle se fonde sur une réflexion économique et politique plus rigoureuse. Nous nous attacherons donc à ce dernier à partir de ces deux livres, « L'ère de l'opulence » et « Le nouvel état industriel ». Résumons brièvement, nous dirons que le problème fondamental du capitalisme contemporain n'est plus la contradiction entre maximisation du profit et rationalisation de la production, au niveau de l'entrepreneur, mais entre une productivité virtuellement illimitée, au niveau de la technostructure, et la nécessité d'écouler les produits. Il devient vital pour le système, dans cette phase, de contrôler non seulement l'appareil de production, mais la demande de consommation, non seulement les prix, mais ce qui sera demandé à ce prix. L'effet général est soit par des moyens antérieurs à l'acte même de production, sondage, études de marché, soit postérieurs, publicité, marketing, conditionnement. Ouvrez les guillemets, d'enlever à l'acheteur, chez qui il échappe à tout contrôle, le pouvoir de décision pour le transférer à l'entreprise, où il peut être manipulé. Ferme les guillemets. Plus généralement, ouvrez les guillemets, l'adaptation du comportement de l'individu à l'égard du marché et celle des attitudes sociales en général aux besoins du producteur et aux objectifs de la technostructure est donc une caractéristique naturelle du système. Il vaudrait mieux dire caractéristique logique. Son importance croît avec le développement du système industriel. Fermez les guillemets. C'est ce que Galbraith appelle la filière inversée, par opposition à la filière classique, où l'initiative est censée appartenir au consommateur et se répercuter à travers le marché sur les entreprises de production. Ici, au contraire, c'est l'entreprise de production qui contrôle les comportements de marché, dirige et modèle les attitudes sociales et les besoins. C'est, au moins tendanciellement, la dictature totale de l'ordre de production. Cette filière inversée détruit, elle a au moins cette valeur critique, le mythe fondamental de la filière classique qui est que, dans le système économique, c'est l'individu qui exerce le pouvoir. Cet accent mis sur le pouvoir de l'individu contribuait largement à sanctionner l'organisation. Toutes les dysfonctions, les nuisances, les contradictions inhérentes à l'ordre de production sont justifiées, puisqu'elles élargissent le champ où s'exerce la souveraineté du consommateur. Il est clair, à l'inverse, que tout l'appareil économique et psychosociologique d'études de marché, de motivation, etc., par où on prétend faire régner sur le marché la demande réelle, les besoins profonds du consommateur, existe dans le seul but d'induire cette demande aux fins de déboucher, mais de masquer continuellement ce processus objectif en mettant en scène le processus inverse. ouvrez les guillemets, l'homme n'est devenu un objet de science pour l'homme que depuis que les automobiles sont devenus plus difficiles à vendre qu'à fabriquer. Fermez les guillemets. Ainsi, partout, Galbraith dénonce le survoltage de la demande par les accélérateurs artificiels mis en œuvre par la technostructure dans son expansion impérialiste et qui rendent impossible toute stabilisation de la demande. Revenus, achats de prestige et surtravail forment un cercle vicieux et affolé. La ronde infernale de la consommation, fondée sur l'exaltation des besoins dits psychologiques, qui se différencient des besoins physiologiques en ce qu'ils se fondent apparemment sur le revenu discrétionnaire et la liberté de choix, et deviennent ainsi manipulables à merci. La publicité joue ici évidemment un rôle capital, autrité devenue conventionnelle. Elle semble accordée aux besoins de l'individu et aux biens. En fait, dit Galbraith, elle est accordée au système industriel. Ouvrez les guillemets. Elle ne semble donner tant d'importance au bien que pour en donner au système. Elle soutient aussi l'importance et le prestige de la technostructure du point de vue social. Fermez les guillemets. À travers elle, c'est le système qui capte à son profit les objectifs sociaux et qui impose ses propres objectifs comme objectifs sociaux, ce qui est bon pour la General Motors. Encore une fois, on ne peut qu'être d'accord avec Galbraith et d'autres pour admettre que la liberté et la souveraineté du consommateur ne sont que mystifications. Cette mystique bien entretenue, et en tout premier lieu par les économistes, de la satisfaction et du choix individuel, où vient culminer toute une civilisation de la liberté, est l'idéologie même du système industriel, en justifie l'arbitraire et toutes les nuisances collectives, crasse, pollution, déculturation. En fait, le consommateur est souverain dans une jungle de laideur, où on lui a imposé la liberté de choix. La filière inversée, c'est-à-dire le système de la consommation, complète ainsi idéologiquement et vient relayer le système électoral. Le drugstore et l'isoloir, lieu géométrique de la liberté individuelle, sont aussi les deux mamelles du système. Nous avons exposé longuement cette analyse du conditionnement technostructurel des besoins et de la consommation, parce qu'elle est aujourd'hui toute puissante, parce qu'elle constitue, thématisée de toutes les façons dans la pseudo-philosophie de l'aliénation, une véritable représentation collective qui fait elle-même partie de la consommation. Mais elle est justiciable d'objections fondamentales qui toutes renvoient à ces postulats anthropologiques idéalistes. Pour Galbraith, les besoins de l'individu sont stabilisables. Il y a, dans la nature de l'homme, quelque chose comme un principe économique qui lui ferait, n'était l'action des accélérations artificielles, imposer des limites à ses objectifs, à ses besoins, en même temps qu'à ses efforts. Bref, une tendance à la satisfaction non plus maximale, mais harmonieuse, équilibrée sur le plan individuel, et qui devrait, au lieu de s'engager dans le cercle vicieux des satisfactions surmultipliées décrites ci-dessus, pouvoir s'articuler sur une organisation sociale elle aussi harmonieuse des besoins collectifs. Tout ceci est parfaitement utopique. Premièrement, sur le principe des satisfactions authentiques ou artificielles. Galbraith s'insurge contre le raisonnement spécieux des économistes. Ouvrez les guillemets. Rien ne prouve qu'une femme dépensière retire d'une nouvelle robe la même satisfaction qu'un ouvrier affamé d'un hamburger. Mais rien ne prouve le contraire. Donc, son désir doit être mis sur le même pied que celui de l'affamé. Absurde, dit Galbraith. Or, pas du tout. Et ici, les économistes classiques ont presque raison contre lui. Simplement, il se situe, pour tracer cette équivalence au niveau de la demande solvable, il élude ainsi tous les problèmes. Il n'en reste pas moins que, du point de vue de la satisfaction propre du consommateur, rien ne permet de tracer une limite du factice. La jouissance de la télévision ou d'une résidence secondaire est vécue comme liberté vraie. Personne ne vit cela comme une aliénation. Seul l'intellectuel peut le dire au fond de son idéalisme moralisant, mais ceci le désigne tout au plus, lui, comme moraliste aliéné. Deuxièmement, sur le principe économique, Galbraith dit « Ce qu'on appelle le développement économique consiste largement à imaginer une stratégie qui permette de vaincre la tendance des hommes à imposer des limites à leurs objectifs de revenus, et donc à leurs efforts. » Fermez les guillemets. Et il cite l'exemple des ouvriers philippins en Californie. La pression des dettes, jointe à l'émulation vestimentaire, transforma rapidement cette race heureuse et nonchalante en une force de travail moderne. Fermez les guillemets. Et aussi tous les pays sous-développés où l'apparition des gadgets occidentaux constitue le meilleur atout de stimulation économique. Cette théorie, qu'on pourrait appeler celle du stress ou du dressage économique à la consommation, liée au forcing de la croissance, est séduisante. Elle fait apparaître l'acculturation forcée au processus de consommation comme la suite logique, dans l'évolution du système industriel, du dressage horaire et gestuel, depuis le 19e siècle de l'ouvrier au processus de production industrielle. Cela dit, il faudrait expliquer pourquoi les consommateurs mordent à l'hameçon. Pourquoi ils sont vulnérables à cette stratégie ? Il est trop facile d'en appeler à une nature heureuse et nonchalante, et d'imputer une responsabilité mécanique au système. Il n'y a pas plus de tendance naturelle à la nonchalance qu'au forcing. Ce que Galbraith ne voit pas, et qui l'oblige à mettre en scène les individus comme de pures victimes passives du système, c'est toute la logique sociale de la différenciation. Ce sont les processus distinctifs de classe ou de caste, fondamentaux dans la structure sociale et qui jouent à plein en société démocratique. Bref, c'est toute une sociologie de la différence, du statut, etc. qui manque ici, en fonction de laquelle tous les besoins se réorganisent selon une demande sociale objective de signes et de différences, et qui fonde la consommation non plus comme une fonction de satisfaction individuelle harmonieuse, donc limitable selon des normes idéales de nature, mais comme une activité sociale illimitée. Nous reviendrons sur ce point par la suite. Troisièmement, les besoins sont en réalité le fruit de la production, dit Galbraith. Ne croyons pas si bien dire. Car, sous son air démystifié et lucide, cette thèse, au sens où il l'entend, n'est qu'une version plus subtile de l'authenticité naturelle de certains besoins et de l'ensorcellement par l'artificiel. Galbraith veut dire que, sans le système productiviste, un grand nombre de besoins n'existeraient pas. Il entend qu'en produisant tel bien ou service, les entreprises produisent en même temps tous les moyens de suggestion propres à les faire accepter, et donc produisent au fond les besoins qui leur correspondent. Il y a là une grave lacune psychologique. Les besoins y sont étroitement spécifiés d'avance par relation à des objets finis. Il n'y a de besoin que de tel ou tel objet, et la psyché du consommateur n'est au fond qu'une victime ou un catalogue. Il est vrai aussi que, prenant cette vue simpliste sur l'homme, on ne peut en venir qu'à cet écrasement psychologique, les besoins empiriques reflets spectaculaires des objets empiriques. Or à ce niveau, la thèse du conditionnement est fausse. On sait comment les consommateurs résistent à telle injonction précise, comment ils jouent de leurs besoins sur le clavier des objets, combien la publicité n'est pas toute puissante et induit parfois des réactions inverses, quelle substitution s'opère d'un objet à l'autre en fonction du même besoin, etc. Bref, au niveau empirique, toute une stratégie compliquée, de type psychologique et sociologique, vient traverser celle de la production. Ce qui est vrai, c'est non pas que les besoins sont le fruit de la production, mais que le système des besoins est le produit du système de production. Ceci est tout différent. Par système des besoins, nous entendons que les besoins ne sont pas produits un à un en relation aux objets respectifs, mais sont produits comme force consommative, comme disponibilité globale dans le cadre plus général des forces productives. C'est en ce sens qu'on peut dire que la technostructure étend son empire. L'ordre de production ne capte pas à son profit l'ordre de la jouissance, à proprement parler, ceci n'a pas de sens. Il nie l'ordre de la jouissance et s'y substitue en réorganisant tout un système de forces productives. On peut suivre au fil de l'histoire du système industriel cette généalogie de la consommation. Premièrement, l'ordre de production produit la machine force productive, système technique radicalement différent de l'outil traditionnel. Deuxièmement, il produit le capital force productive rationalisé, système d'investissement et de circulation rationnelle radicalement différent de la richesse et des modes d'échanges antérieurs. Troisièmement, il produit la force de travail salariée, force productive abstraite, systématisée, radicalement différente du travail concret, de l'ouvrage traditionnel. Quatrièmement, ainsi produit-il les besoins, le système des besoins, la demande force productive, comme un ensemble rationalisé, intégré, contrôlé, complémentaire des trois autres dans un processus de contrôle total des forces productives et des processus de production. Les besoins en tant que système sont eux aussi radicalement différents de la jouissance et de la satisfaction. Ils sont produits comme éléments du système, et non comme rapport d'un individu à un objet. De même que la force de travail n'a plus rien à voir, ni même le rapport de l'ouvrier au produit de son travail. De même que la valeur d'échange n'a plus rien à voir avec l'échange concret et personnel, ni la forme marchandise avec le bien réel, etc. Voilà ce que ne voit pas Galbraith, et avec lui tous les aliénistes de la consommation, qui s'obstinent à démontrer que le rapport de l'homme aux objets, le rapport de l'homme à lui-même est truqué, mystifié, manipulé, consommant ce mythe en même temps que les objets. Parce que, posant le postulat éternel d'un sujet libre et conscient, afin de pouvoir le faire ressurgir à la fin de l'histoire comme happy end, ils ne peuvent qu'imputer toutes les dysfonctions qu'ils révèlent à une puissance diabolique. Ici, la technostructure armée de la publicité, des publics relations et des études de motivation. Pensée magique s'il en est. Ils ne voient pas que les besoins ne sont rien pris un à un, qu'il n'y a qu'un système des besoins, et plutôt que les besoins ne sont rien que la forme plus avancée de la systématisation rationnelle des forces productives au niveau individuel, où la consommation prend le relais logique et nécessaire de la production. Ceci peut éclairer un certain nombre de mystères inexplicables pour nos pieux aliénistes. Ils déplorent par exemple qu'en pleine ère d'abondance, l'éthique puritaine n'ait pas été abandonnée, qu'une mentalité moderne de jouissance n'ait pas remplacé l'ancien malthusianisme moral et autorépressif. Toute la stratégie du désir de Dichter vise ainsi à tourner et à subvertir ces vieilles structures mentales par en dessous. Et c'est vrai, il n'y a pas eu révolution des mœurs. L'idéologie puritaine est toujours de rigueur. Dans l'analyse du loisir, nous verrons comment elle imprègne toutes les pratiques apparemment hédonistes. On peut affirmer que l'éthique puritaine, avec ce qu'elle implique de sublimation, de dépassement et de répression, de morale en un mot, hante la consommation et les besoins. C'est elle qui l'impulse de l'intérieur et lui donne ce caractère compulsif et illimité. Et l'idéologie puritaine est elle-même réactivée par le procès de consommation. C'est bien ce qui fait de cette dernière ce puissant facteur d'intégration et de contrôle social que l'on sait. Or, tout ceci reste paradoxal et inexplicable dans la perspective de la consommation-jouissance. Tout s'explique par contre si l'on admet que besoin et consommation sont en fait une extension organisée des forces productives. Rien d'étonnant alors qu'ils relèvent eux aussi de l'éthique productiviste et puritaine qui fut la morale dominante de l'ère industrielle. L'intégration généralisée du niveau privé individuel, besoin, sentiment, aspiration, pulsion, comme force productive, ne peut que s'accompagner d'une extension généralisée à ce niveau des schèmes de répression, de sublimation, de concentration, de systématisation, de rationalisation et d'aliénation, bien entendu, qui ont régi pendant des siècles, mais surtout depuis le 19e, l'édification du système industriel. Mouvance des objets, mouvance des besoins. Jusqu'ici, toute l'analyse de la consommation se fonde sur l'anthropologie naïve de l'homo economicus, au mieux de l'homo psycho-economicus. Dans le prolongement idéologique de l'économie politique classique, c'est une théorie des besoins, des objets, au sens le plus large, et des satisfactions. Ce n'est pas une théorie, c'est une immense tautologie. J'achète ceci parce que j'en ai besoin, équivaut au feu qui brûle par son essence phlogistique. Nous avons montré ailleurs combien toute cette pensée empiriste finaliste, l'individu pris comme fin et sa représentation consciente prise comme logique des événements, était du même ordre que la spéculation magique des primitifs et des ethnologues autour de la notion de mana. Aucune théorie de la consommation n'est possible à ce niveau. L'évidence spontanée, comme la réflexion analytique en termes de besoins, ne livrera jamais qu'un reflet consommé de la consommation. Cette mythologie rationaliste sur les besoins et les satisfactions est aussi naïve et désarmée que la médecine traditionnelle devant les symptômes hystériques ou psychosomatiques. Expliquons-nous. Hors du champ de sa fonction objective, où il est irremplaçable, hors du champ de sa détonation, l'objet devient substituable de façon plus ou moins illimitée dans le champ des connotations, où il prend valeur de signe. Ainsi, la machine à laver sert comme ustensile et joue comme élément de confort, de prestige, etc. C'est proprement ce dernier champ qui est celui de la consommation. Ici, toutes sortes d'autres objets peuvent se substituer à la machine à laver comme élément significatif. Dans la logique des signes, comme dans celle des symboles, les objets ne sont plus du tout liés à une fonction ou à un besoin défini. Précisément parce qu'ils répondent à toute autre chose, qui est en soi la logique sociale, soit la logique du désir, auxquels ils servent de champs mouvants et inconscients de signification. Toute proportion gardée, les objets et les besoins sont ici substituables comme les symptômes de la conversion hystérique ou psychosomatique. Ils obéissent à la même logique du glissement, du transfert, de la convertibilité illimitée et apparemment arbitraire. Quand le mal est organique, il y a relation nécessaire du symptôme à l'organe. De même que dans sa qualité d'ustensile, il y a relation nécessaire entre l'objet et sa fonction. Dans la conversion hystérique ou psychosomatique, le symptôme, comme le signe, est arbitraire, relativement. Migraine, colite, lumbago, angine, fatigue généralisée, il y a une chaîne de signifiants somatiques au long de laquelle le symptôme se balade, tout comme il y a un enchaînement d'objets signes ou d'objets symboles au long duquel se balade non plus le besoin, qui est toujours lié à une finalité rationnelle de l'objet, mais le désir et quelque autre détermination encore qui est celle de la logique sociale inconsciente. Si on traque le besoin en un endroit, c'est-à-dire si on le satisfait en le prenant à la lettre, en le prenant pour ce qu'il se donne, le besoin de tel objet, on fait la même erreur qu'en appliquant une thérapeutique traditionnelle à l'organe où se localise le symptôme. Aussitôt guéri ici, il se localise ailleurs. Le monde des objets et des besoins serait ainsi celui d'une hystérie généralisée. De même que tous les organes et toutes les fonctions du corps deviennent dans la conversion un gigantesque paradigme que décline le symptôme, ainsi les objets deviennent dans la consommation un vaste paradigme où se décline un autre langage, où quelque chose d'autre parle. On pourrait dire que cette évanescence, cette mobilité continuelle, telle qu'il devient impossible de définir une spécificité objective du besoin, tout comme il est impossible de définir dans l'hystérie une spécificité objective du mal, pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. On pourrait dire que cette fuite d'un signifiant à l'autre n'est que la réalité superficielle d'un désir qui, lui, est insatiable parce qu'il se fonde sur le manque, et que c'est ce désir à jamais insoluble qui se signifie localement dans les objets et les besoins successifs. Sociologiquement, mais il serait très intéressant et fondamental d'articuler les deux, on peut avancer l'hypothèse que, éternel et naïf désarroi devant la fuite en avant, le renouvellement illimité des besoins, inconciliable en effet avec la théorie rationaliste qui est qu'un besoin satisfait crée un état d'équilibre et de résolution des tensions, si l'on admet par contre que le besoin n'est jamais tant le besoin de tel objet que le besoin de différence, le désir du sens social, alors on comprendra qu'il ne puisse jamais y avoir de satisfaction accomplie, ni donc de définition du besoin. À la mouvance du désir s'ajoute donc, mais y a-t-il métaphore entre les deux, la mouvance des significations différentielles. Entre les deux, les besoins ponctuels et finis ne prennent de sens que comme foyers de convection successifs. C'est dans leur substitution même qu'ils signifient, mais voilent en même temps les véritables sphères de la signification, celle du manque et de la différence qui les déborde de toutes parts. Dénégation de la jouissance. L'accaparement d'objets est sans objet. Les conduites de consommation apparemment axées, orientées sur l'objet et la jouissance, répondent en fait à de tout autres finalités, celles d'expression métaphorique ou détournée du désir, celles de production, à travers des signes différentiels, d'un code social de valeur. Ce n'est donc pas la fonction individuelle d'intérêt à travers un corpus d'objets qui est déterminante. C'est celle immédiatement sociale, d'échange, de communication, de distribution des valeurs à travers un corpus de signes. La vérité de la consommation, c'est qu'elle est non une fonction de jouissance, mais une fonction de production, et donc, comme la production matérielle, une fonction non pas individuelle, mais immédiatement et totalement collective. Sans ce renversement des données traditionnelles, pas d'analyse théorique possible. De quelque façon qu'on s'y prenne, on retombe dans la phénoménologie de la jouissance. La consommation est un système qui assure l'ordonnance des signes et l'intégration du groupe. Elle est donc à la fois une morale, un système de valeurs idéologiques, et un système de communication, une structure d'échange. C'est là-dessus et sur le fait que cette fonction sociale et cette organisation structurale dépassent de loin les individus et s'imposent à eux selon une contrainte sociale inconsciente, que peut se fonder une hypothèse théorique qui ne soit ni un récital de chiffres, ni une métaphysique descriptive. Selon cette hypothèse, et aussi paradoxale que cela paraisse, la consommation se définit comme exclusive de la jouissance. Comme logique sociale, le système de la consommation s'institue sur la base d'une dénégation de la jouissance. La jouissance n'y apparaît plus du tout comme finalité, comme fin rationnelle, mais comme rationalisation individuelle d'un processus dont les fins sont ailleurs. La jouissance définirait la consommation pour soi, autonome et final. Or, la consommation n'est jamais cela. On jouit pour soi, mais quand on consomme, on ne le fait jamais seul. C'est l'illusion du consommateur, soigneusement entretenue par tout le discours idéologique sur la consommation. On entre dans un système généralisé des échanges et de production de valeurs codées, où, en dépit d'eux-mêmes, tous les consommateurs sont impliqués réciproquement. Dans ce sens, la consommation est un ordre de signification, comme le langage ou comme le système de parenté en société primitive. Une analyse structurale ? Reprenons ici le principe lévi-straussien. Ce qui confère à la consommation son caractère de fait social, ce n'est pas ce qu'elle conserve apparemment de la nature, la satisfaction, la jouissance, c'est la démarche essentielle pour laquelle elle s'en sépare, ce qui la définit comme code, comme institution, comme système d'organisation. De même que le système de parenté n'est pas fondé en dernière instance sur la consanguinité et la filiation, sur une donnée naturelle, mais sur une ordonnance arbitraire de classification, ainsi le système de la consommation n'est pas fondé en dernière instance sur le besoin et la jouissance, mais sur un code de signes, d'objets signes et de différences. Les règles de mariage représentent tout autant de façons d'assurer la circulation des femmes au sein du groupe social, c'est-à-dire de remplacer un système de relations consanguines d'origine biologique par un système sociologique d'alliance. Ainsi, les règles de mariage et les systèmes de parenté peuvent être considérés comme une sorte de langage, c'est-à-dire un ensemble d'opérations destinées à assurer entre les individus et les groupes un certain type de communication. Il en est de même pour la consommation. Un système biofonctionnel et bioéconomique de biens et de produits, niveau biologique du besoin et de la subsistance, vient se substituer à un système sociologique de signes, niveau propre de la consommation. Et la fonction fondamentale de la circulation réglée d'objets et de biens est la même que pour les femmes ou les mots, assurer un certain type de communication. Nous reviendrons sur les différences entre ces divers types de langage. Elles tiennent essentiellement au mode de production des valeurs échangées et au type de division du travail qui s'y attache. Les biens sont évidemment produits, ce que ne sont pas les femmes, et ils le sont autrement que les mots. Il reste qu'au niveau de la distribution, les biens et les objets, comme les mots et jadis les femmes, constituent un système global, arbitraire, cohérent, de signes, un système culturel qui vient substituer au monde contingent des besoins et des jouissances, à l'ordre naturel et biologique, un ordre social de valeurs et de rangement. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de besoin, d'utilité naturelle, etc. Il s'agit de voir que la consommation, comme concept spécifique de la société contemporaine, n'est pas là. Car ceci est valable pour toutes les sociétés. Ce qui est sociologiquement significatif pour nous, et qui marque notre époque sous le signe de la consommation, c'est précisément la réorganisation généralisée de ce niveau primaire en un système de signes qui se révèle être un des modes spécifiques, peut-être le mode spécifique de passage de la nature à la culture de notre époque. La circulation, l'achat, la vente, l'appropriation de biens et d'objets signes différenciés constituent aujourd'hui notre langage, notre code, celui par où la société entière communique et se parle. Telle est la structure de la consommation, sa langue en regard de laquelle les besoins et les jouissances individuelles ne sont que des effets de parole. Le fun system ou la contrainte de jouissance. Une des meilleures preuves que le principe et la finalité de la consommation n'est pas la jouissance est que celle-ci est aujourd'hui contrainte et institutionnalisée non pas comme droit ou comme plaisir, mais comme devoir du citoyen. Le puritain ne considérait lui-même, considérait sa propre personne comme une entreprise à faire fructifier pour la plus grande gloire de Dieu. Ses qualités personnelles, son caractère, à la production duquel il passait sa vie, était pour lui un capital à investir opportunément, à gérer sans spéculation ni gaspillage. À l'inverse, mais de la même façon, l'homme consommateur se considère comme devant jouir, comme une entreprise de jouissance et de satisfaction, comme devant être heureux, amoureux, adulant, adulé, séduisant, séduit, participant, euphorique et dynamique. C'est le principe de maximisation de l'existence par multiplication des constats, des relations, par usage intensif de signes, d'objets, par l'exploitation systématique de toutes les virtualités de jouissance. Il n'est pas question pour le consommateur, pour le citoyen moderne, de se dérober à cette contrainte de bonheur et de jouissance, qui est l'équivalent dans la nouvelle éthique de la contrainte traditionnelle de travail et de production. L'homme moderne passe de moins en moins de sa vie à la production dans le travail, mais de plus en plus à la production et innovation continuelle de ses propres besoins et de son bien-être. Il doit veiller à mobiliser constamment toutes ses virtualités, toutes ses capacités consommatives. S'il l'oublie, on lui rappellera gentiment et instamment qu'il n'a pas le droit de ne pas être heureux. Il n'est donc pas vrai qu'il soit passif. C'est une activité continuelle qu'il déploie, qu'il doit déployer. Sinon, il courrait le risque de se contenter de ce qu'il a et de devenir asocial. D'où la reviviscence d'une curiosité universelle, concept à explorer, en matière de cuisine, de culture, de science, de religion, de sexualité, etc. « Try Jésus », dit un slogan américain. « Essayez donc avec Jésus ». Il faut tout essayer, car l'homme de la consommation est tenté par la peur de rater quelque chose, une jouissance, quelle qu'elle soit. On ne sait jamais si tel ou tel contact, telle ou telle expérience, Noël aux Canaries, l'anguille au whisky, le Prado, le LSD, l'amour à la japonaise, ne tirera pas de vous une sensation. Ce n'est plus le désir, ni même le goût ou l'inclination spécifique qui sont en jeu. C'est une curiosité généralisée, mue par une hantise diffuse. C'est la fun morality, ou l'impératif de s'amuser, d'exploiter à fond toutes les possibilités de se faire vibrer, jouir ou gratifier. La consommation comme émergence et contrôle de nouvelles forces productives. La consommation n'est donc qu'un secteur apparemment anomique, parce qu'il n'est pas, selon la définition durkheimienne, régi par des règles formelles et semble livré à la démesure et à la contingence individuelle des besoins. Elle n'est pas du tout, comme on l'imagine généralement, ce pourquoi la science économique répugne au fond à en parler, un secteur marginal d'indétermination où l'individu, ailleurs partout contraint par les règles sociales, recouvrerait enfin, dans la sphère privée, livré à lui-même, une marge de liberté et de jeu personnel. Elle est une conduite active et collective. Elle est une contrainte. Elle est une morale. Elle est une institution. Elle est tout un système de valeurs avec ce que ce terme implique comme fonction d'intégration du groupe et de contrôle social. La société de consommation, c'est aussi la société d'apprentissage de la consommation, de dressage social à la consommation, c'est-à-dire un mode nouveau et spécifique de socialisation en rapport avec l'émergence de nouvelles forces productives et la restructuration monopolistique d'un système économique à haute productivité. Le crédit joue ici un rôle déterminant, même s'il ne joue que partiellement sur les budgets de dépenses. Sa conception est exemplaire parce que, sous couleur de gratification, de facilité d'accès à l'abondance, de mentalité hédoniste et libérée des vieux tabous de l'épargne, etc., le crédit est en fait un dressage socio-économique systématique à l'épargne forcée et au calcul économique de générations de consommateurs qui autrement eussent échappé, au fil de leur subsistance, à la planification de la demande et eussent été inexploitables comme force consommative. Le crédit est un processus disciplinaire d'extorsion de l'épargne et de régulation de la demande. Tout comme le travail salarié fut un processus rationnel d'extorsion de la force de travail, et de multiplication de la productivité. L'exemple cité par Galbraith des Portoricains, dont on a fait, de passifs et nonchalants qu'ils étaient, une force de travail moderne en les motivant à consommer, est une preuve éclatante de la valeur tactique de la consommation réglée, forcée, instruite, stimulée, dans l'ordre socio-économique moderne. Et ceci, comme le montre Marc Alexandre dans La Nef, la société de consommation, par le dressage mental des masses à travers le crédit, la discipline et la contrainte budgétaire qu'il impose, au calcul prévisionnel, à l'investissement et au comportement capitaliste de base. L'éthique rationnelle et disciplinaire qui fut à l'origine, selon Weber, du productivisme capitaliste moderne, investit de la sorte tout un domaine qui lui échappait jusqu'ici. On se rend mal compte combien le dressage actuel à la consommation systématique et organisée est l'équivalent et le prolongement au XXe siècle du grand dressage tout au long du XIXe des populations rurales au travail industriel. Le même processus de rationalisation des forces productives qui a eu lieu au XIXe dans le secteur de la production trouve son aboutissement au XXe dans le secteur de la consommation. Le système industriel, ayant socialisé les masses comme force de travail, devait aller plus loin pour s'accomplir et les socialiser, c'est-à-dire les contrôler, comme force de consommation. Les petits épargnants ou consommateurs anarchiques d'avant-guerre, libres de consommer ou pas, n'ont plus rien à faire dans ce système. Toute l'idéologie de la consommation veut nous faire croire que nous sommes entrés dans une ère nouvelle et qu'une révolution humaine décisive sépare l'âge douloureux et héroïque de la production de l'âge euphorique de la consommation, où est enfin rendu droit à l'homme et à ses désirs. Il n'en est rien. Production et consommation, il s'agit là d'un seul et même grand processus logique de reproduction élargie des forces productives et de leur contrôle. Cet impératif qui est celui du système passe dans la mentalité, dans l'éthique et l'idéologie quotidienne. C'est là l'immense astuce sous sa forme inverse, sous forme de libération des besoins, d'épanouissement de l'individu, de jouissance, d'abondance, etc. Les thèmes de la dépense, de la jouissance, du non-calcul, achetez maintenant, vous paierez plus tard, ont pris la relève des thèmes puritains de l'épargne, du travail, du patrimoine. Mais il ne s'agit là qu'en apparence d'une révolution humaine. En fait, c'est la substitution à usage interne, dans le cadre d'un processus général et d'un système inchangé pour l'essentiel, d'un système de valeur à un autre devenu relativement inefficace. Ce qui pouvait être finalité nouvelle est devenu vidé de son contenu réel, médiation forcée de la reproduction du système. Les besoins et les satisfactions des consommateurs sont des forces productives, aujourd'hui contraintes et rationalisées comme les autres, forces de travail, etc. De toutes parts où nous l'avons à peine exploré, la consommation nous est donc apparue à l'inverse de l'idéologie vécue comme une dimension de contrainte. Premièrement, dominée par les contraintes de signification au niveau de l'analyse structurale. Deuxièmement, dominée par la contrainte de production et du cycle de la production dans l'analyse stratégique, socio-économico-politique. Abondance et consommation ne sont donc pas l'utopie réalisée. Elles sont une nouvelle situation objective, régie par les mêmes processus fondamentaux, mais surdéterminée par une nouvelle morale, le tout correspondant à une nouvelle sphère des forces productives en voie de réintégration contrôlée dans le même système élargi. Dans ce sens, il n'y a pas de progrès objectif, ni a fortiori de révolution. C'est tout simplement la même chose et quelque chose d'autre. Ce qui résulte dans le fait, d'ailleurs sensible au niveau même de la quotidienneté, de l'ambiguïté totale de l'abondance et de la consommation. Elles sont toujours à la fois vécues comme mythes d'assomption du bonheur, au-delà de l'histoire et de la morale, et endurées comme un processus objectif d'adaptation à un nouveau type de conduite collective. Sur la consommation comme contrainte civique, Eisenhower, 1958, ouvrez les guillemets, « Dans une société libre, le gouvernement encourage le mieux la croissance économique lorsqu'il encourage l'effort des individus et des groupes privés. L'argent ne sera jamais dépensé aussi utilement par l'État qu'il l'aurait été par les contribuables, lui-même libéré du fardeau des impôts. » Fermez les guillemets. Tout se passe comme si la consommation, sans être une imposition directe, puisse succéder effectivement à l'impôt, comme prestation sociale. Ouvrez les guillemets. Avec leurs 9 milliards bonifiés par le fisc, ajoute le magazine Time, les consommateurs sont allés chercher la prospérité dans 2 millions de commerces de détail. Ils ont compris qu'il était en leur pouvoir de faire croître l'économie en remplaçant leur ventilateur par un climatiseur. Ils ont assuré le boom de 1954 en achetant 5 millions de téléviseurs miniaturisés, 1,5 million de couteaux à découper la viande électriquement, etc. Fermez les guillemets. Bref, ils ont accompli leur devoir civique. Économiser est anti-américain, disait White. Sur les besoins comme force productive, équivalent des gisements de main-d'œuvre de l'époque héroïque, publicité pour le cinéma publicitaire. Ouvrez les guillemets. Le cinéma vous permet, grâce à ses écrans géants, de présenter votre produit en situation, couleur, forme, conditionnement. Dans les 2500 salles en régie publicitaire, 3 500 000 spectateurs chaque semaine. 67% d'entre eux ont plus de 15 ans et moins de 35 ans. Ce sont des consommateurs au plein de leurs besoins qui veulent et peuvent acheter. Fermez les guillemets. Exactement, ce sont des êtres en pleine force de travail. Fonction logistique de l'individu. Ouvrez les guillemets. L'individu sert le système industriel non pas en lui apportant ses économies et en lui fournissant son capital, mais en consommant ses produits. Il n'y a d'ailleurs aucune autre activité religieuse, politique ou morale à laquelle on le prépare de manière aussi complète, aussi savante et aussi coûteuse. Galbraith. Le système a besoin des hommes comme travailleurs, travailleurs salariés, comme épargnants, impôts, emprunts, etc. Mais de plus en plus comme consommateurs. La productivité du travail est de plus en plus dévolue à la technologie et à l'organisation, l'investissement de plus en plus aux entreprises elles-mêmes. Là où l'individu en tant que tel est aujourd'hui requis et pratiquement irremplaçable, c'est en tant que consommateur. On peut donc prédire de beaux jours et une apogée future au système de valeurs individualistes dont le centre de gravité se déplace de l'entrepreneur et de l'épargnant individuel, figure de proue du capitalisme concurrentiel, au consommateur individuel, s'élargissant du même coup à la totalité des individus, dans la mesure même de l'extension des structures techno-bureaucratiques. Au stade concurrentiel, le capitalisme se soutenait encore vaille que vaille d'un système de valeurs individualistes bâtardé d'altruisme. La fiction d'une moralité sociale altruiste, héritée de toute la spiritualité traditionnelle, venait éponger l'antagonisme des rapports sociaux. La loi morale résultait des antagonismes individuels, comme la loi du marché des processus concurrentiels. Elle préservait la fiction d'un équilibre. Le salut individuel dans la communauté de tous les chrétiens, le droit individuel limité dans le droit des autres, on y a cru longtemps. C'est impossible aujourd'hui, de même que le libre marché a virtuellement disparu au profit du contrôle monopolistique, étatique et bureaucratique. De même, l'idéologie altruiste ne suffit plus à restituer un minimum d'intégration sociale. Nulle autre idéologie collective n'est venue relayer ces valeurs. Seule la contrainte collective de l'État vient juguler l'exacerbation des individualismes. D'où la contradiction profonde de la société civile et politique en société de consommation. Le système est forcé de produire de plus en plus d'individualisme consommateur, qu'il est en même temps contraint de réprimer de plus en plus durement. Ceci ne peut se résoudre que par un surcroît d'idéologie altruiste, elle-même bureaucratisée, lubrification sociale par la sollicitude, la redistribution, le don, la gratuité, toute la propagande caritative et des relations humaines. Rentrant elle-même dans le système de la consommation, celle-ci ne saurait suffire à l'équilibrer. La consommation est donc un puissant élément de contrôle social par l'atomisation des individus consommateurs, mais elle entraîne par là même la nécessité d'une contrainte bureaucratique toujours plus forte sur les processus de consommation, laquelle sera en conséquence exaltée avec toujours plus d'énergie, comme le règne de la liberté. On n'en sortira pas. L'automobile et la circulation sont l'exemple clé de toutes ces contradictions. Promotion sans limite de la consommation individuelle, appel désespéré à la responsabilité collective et à la moralité sociale, contraintes de plus en plus lourdes. Le paradoxe est celui-ci. On ne peut à la fois répéter à l'individu que le niveau de consommation est la juste mesure du mérite social et exiger de lui un autre type de responsabilité sociale, puisque dans son effort de consommation individuelle, il assume déjà pleinement cette responsabilité sociale. Encore une fois, la consommation est un travail social. Le consommateur est requis et mobilisé comme travailleur à ce niveau aussi, autant peut-être aujourd'hui qu'au niveau de la production. Il ne faudrait quand même pas demander au travailleur de la consommation de sacrifier son salaire, ses satisfactions individuelles, pour le bien de la collectivité. Quelque part, dans leur subconscient social, les millions de consommateurs ont une espèce d'intuition pratique de ce nouveau statut de travailleur aliéné. Ils traduisent donc spontanément comme mystification l'appel à la solidarité publique et leur résistance tenace sur ce plan ne fait que traduire un réflexe de défense politique. L'égoïsme forcené du consommateur, c'est aussi la subconscience grossière d'être, en dépit de tout le pathos sur l'abondance et le bien-être, le nouvel exploité des temps modernes. Que cette résistance et cet égoïsme mènent le système à des contradictions insolubles, auxquels ils ne répondent que par des contraintes renforcées, ne fait que confirmer que la consommation est un gigantesque champ politique dont l'analyse, après et en même temps que celle de la production, est encore à faire. Tout le discours sur la consommation vise à faire du consommateur l'homme universel, l'incarnation générale, idéale et définitive de l'espèce humaine, de la consommation des prémices d'une libération humaine qui s'accomplirait au lieu et malgré l'échec de la libération politique et sociale. Mais le consommateur n'a rien d'un être universel. Il est lui-même un être politique et social, une force productive, et, à ce titre, il relance des problèmes historiques fondamentaux, ceux de la propriété des moyens de consommation et non plus des moyens de production, celle de la responsabilité économique, responsabilité quant au contenu de la production, etc. Il y a là virtualité de crise profonde et de contradiction nouvelle. L'égo-consumance. Jusqu'ici, nulle part ou presque, à part quelques grèves de ménagères américaines et la destruction sporadique de biens de consommation, mai 68, le No Bra Day, où des femmes américaines brûlèrent publiquement leur soutien-gorge, ces contradictions ne sont apparues consciemment. Et il faut dire que tout va à l'encontre. Ouvrez les guillemets. Que représente le consommateur dans le monde moderne? Rien. Que pourrait-il être? Tout, ou presque tout. Parce qu'il reste seul à côté de millions de solitaires, il est à la merci de tous les intérêts. Journal Le Coopérateur, 1965. Et il faut dire que l'idéologie individualiste joue ici très fort, même si nous avons vu que des contradictions y sont latentes. L'exploitation par la dépossession de la force de travail, parce qu'elle touche un secteur collectif, celui du travail social, se révèle à partir d'un certain seuil solidarisante. Elle mène à une conscience de classe relative. La possession dirigée d'objets et de biens de consommation est, elle, individualisante, désolidarisante, déshistorisante. En tant que producteur, et par le fait même de la division du travail, le travailleur postule les autres. L'exploitation est celle de tous. En tant que consommateur, l'homme redevient solitaire ou cellulaire, tout au plus grégaire. La télévision en famille, le public de stade ou de cinéma, etc. Les structures de consommation sont à la fois très fluides et closes. Peut-on imaginer une coalition des automobilistes contre la vignette? Une contestation collective de la télévision? Chacun des millions de téléspectateurs peut être opposé à la publicité télévisée. Celle-ci se fera pourtant. C'est que la consommation est d'abord orchestrée comme un discours à soi-même et tend à s'épuiser avec ses satisfactions et ses déceptions dans cet échange minimum. L'objet de consommation isole. La sphère privée est sans négativité concrète parce qu'elle se renferme sur ces objets qui n'en ont pas. Elle est structurée de l'extérieur par le système de production dont la stratégie, non plus idéologique à ce niveau mais toujours politique, dont la stratégie du désir investit cette fois la matérialité de notre existence, sa monotonie et ses distractions. Ou alors l'objet de consommation distingue, comme nous l'avons vu, une stratification de statut, s'il n'isole plus, il différencie. Il assigne collectivement les consommateurs à un code, sans susciter pour autant, au contraire, de solidarité collective. En gros donc, les consommateurs sont en tant que tels inconscients et inorganisés, comme pouvaient l'être les ouvriers du début du XIXe. C'est à ce titre qu'ils sont partout exaltés, flattés, chantés par les bons apôtres comme l'opinion publique, réalité mystique, providentielle et souveraine. Comme le peuple est exalté par la démocratie pourvu qu'il y reste, c'est-à-dire n'intervienne pas sur la scène politique et sociale. Ainsi, on reconnaît aux consommateurs la souveraineté pourvu qu'il ne cherche pas à jouer comme tel sur la scène sociale. Le peuple, ce sont les travailleurs pourvu qu'ils soient inorganisés. Le public, l'opinion publique, ce sont les consommateurs pourvu qu'ils se contentent de consommer.